Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons ouvrir un passage dans notre Bible. Ce sera une méditation que nous y apporterons un commentaire. Alors, je vais vous lire le texte dans Parole vivante. C'est la Bible. C'est une traduction moderne, hein, dans le Nouveau Testament. Et avant de vous donner la situation, je vais simplement introduire par quelques mots, quelques réflexions qui vont nous parler certainement par la suite. Un jour, dans une circonstance particulière, Jésus a dit ces paroles « Qui dit-on que je suis ?» Voilà, vous pouvez le resituer dans un passage de la Bible. Il a posé la question à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Alors, il y a eu diverses réponses. Les uns ont dit « Mais voilà, tu es ainsi, tu es le Messie, tu es Élie. » Il y en a qui ont même dit qu'il était Élie ressuscité. Enfin voilà, donc... C'était très imprécis tout cela. Et c'est vrai que quand on se pose la question, on peut se dire, mais est-ce que Jésus est vraiment classable? Ou je pourrais le décliner sous un autre sens, vraiment Jésus est inclassable. Il a tout fait, Jésus. Quand il est venu, il a rempli finalement eh bien, la plénitude de ce que un homme peut remplir sur sa vie, lui la plénitude. Parce que nous, on sait toujours, c'est une symphonie achevée, notre vie, inachevée. Mais Jésus a tout, eh bien, accompli. Et alors, c'est vrai qu'on peut dire, eh bien, Jésus est inclassable. Certains, peut-être, ont pensé, dans des aspirations politiques, qu'il était le plus grand des socialistes. Ben oui, parce qu'il a quand même précisé que tout ce qui est à moi est à vous. Ben oui, parce que tout ce que Jésus a pu nous dire du royaume des cieux et nous donner du royaume des cieux, c'était à lui, et il nous l'a donné. Il y en a d'autres ont dit le contraire, hein. Tout ce qui est à toi, c'est à moi. Bon, c'est encore une autre version du partage, naturellement. Certains, peut-être, vont trouver la situation un petit peu insolite, mais si je vous disais que Jésus est le plus grand des socialistes, alors là, c'est encore autre chose, hein. Je dirais que Jésus est le champion incontesté et jamais égalé de la justice sociale. Même en politique, il a dit un jour « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Là aussi, ça fait des remous, hein. Parce que de quoi il s'occupait finalement pour dire des choses comme ça? Mais il a donné un enseignement derrière. Faut pas l'oublier. Je dirais que son message de Jésus, alors si nous passons à son message, parce qu'il y a toujours une doctrine derrière, hein, dans toutes les disciplines, eh bien c'est un message révolutionnaire, tout simplement. Et je dirais que le message de Jésus d'hier, c'est un message révolutionnaire pour nous encore aujourd'hui. Et si vous voulez, je veux dire encore une chose, avant de découvrir ce fameux texte que vous attendez, hein, que vous dites, mais où est-ce qu'Alain nous emmène maintenant, hein? Eh oui, eh ben je dirais que Jésus, c'est la fin des luttes sociales. Ouais. Alors vous n'avez pas une petite idée du texte qu'on pourrait prendre ce matin pour parler de tout ça? Il n'y a pas beaucoup de Bible, il n'y a pas beaucoup de pages dans la Bible quand même, vous n'allez pas me dire que vous savez pas. Alors, Matthieu, chapitre 20, je ne vais pas vous tenir en suspense quand même jusqu'à la fin de la journée. Matthieu, chapitre 20, et nous allons lire dans la version, justement, précise, que je viens de vous dire. Et après, vous pourrez reprendre votre Bible second, et on remettra ça, eh bien, là, en comparaison. J'ai un titre à ce petit chapitre, c'est le scandale de la grâce. Oui. Alors, je lis. Écoutez bien. En effet... Dans le royaume des cieux, tout se passe comme ce propriétaire d'une vigne qui sort de bonne heure le matin afin d'embaucher des journaliers pour travailler dans son vignoble. Il se met d'accord avec eux de leur payer le salaire d'une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et aperçoit quelques autres qui flânent, désœuvrés, sur la place du marché, et il leur dit, « Vous aussi, Allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Et ils y vont. Il sort encore vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et à chaque fois, il agit de même. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres qui se tiennent là sur la place, et il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? Mais c'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son comptable, son gérant, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais aussi perçoivent une pièce d'argent chacun. Au moment de la recevoir, ils protestent et s'indignent contre le propriétaire. Ces derniers venus là, disent-ils, n'ont travaillé qu'une heure et tu les as mis sur le même pied que nous qui avons travaillé dur toute la journée dans la grosse chaleur. Mais le maître, s'adressant à l'un d'eux, lui dit, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. Est-ce que nous ne nous sommes pas mis d'accord avec une pièce d'argent pour la journée ? Prends donc ce qui te revient et va-t'en. Si cela me fait plaisir de donner à ce dernier venu autant qu'à toi, c'est mon affaire. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas le droit de faire, je n'aurais pas le droit de faire de mon bien ce que je veux ? Ou bien me regardes-tu de travers parce que je suis bon ? Ma générosité te rendrait-elle jaloux ? Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, on va faire la révolution maintenant. Une drôle d'histoire quand même, hein ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quels sont les sentiments que vous pouvez avoir en réaction avec ce texte ? Alors, on va voir ça. On va regarder ça. D'abord, le salaire habituel d'un ouvrier agricole du temps de Jésus, eh bien, c'était tout simplement qui correspondait à un jour de travail du lever du soleil jusqu'à la nuit, jusqu'au coucher du soleil, un denier. Là, il est question d'une pièce d'argent, plus précisément. Et nous sommes au cœur, figurez-vous, d'un dilemme social. Alors, on va essayer d'expliquer ça, parce qu'il y a deux catégories d'individus. Il y a l'homme naturel. Bon, il se met pas en peine de Dieu, Dieu n'existe pas, etc. On l'appellera l'homme naturel, l'incroyant, enfin tout ce que vous voudrez. Hein. Dans nos milieux, on dirait l'homme inconverti, son cœur n'a pas été changé. Alors, il y a d'abord l'homme naturel, et puis il y a le croyant, l'homme qui a foi en Dieu. L'homme qui est passé par une expérience de nouvelle naissance. Pour l'homme naturel, la grâce lui apparaît comme une injustice. Ouais, je dis bien la grâce. C'est pas normal. Écoutez, hein, comment se fait-il que les derniers vont recevoir autant que les premiers ? Donc, ça le révolte. Et puis, pour l'homme né de nouveau, les chrétiens que nous sommes, la grâce, figurez-vous, et ne l'oubliez jamais, c'est un privilège et une faveur. D'accord ? Voyez la dimension, voyez la distance qu'il y a entre eux, hein, entre ces deux catégories. Le premier, c'est pas normal, c'est pas juste, Dieu est injuste. Et pour le second, eh bien, merci Seigneur pour ta grâce, parce que si j'ai du travail aujourd'hui, c'est vraiment une faveur de ta part. C'est bien Seigneur que tu m'aies donné la santé, mais je ne l'oublie pas. C'est bien que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, et je t'en bénis. Je suis reconnaissant, je suis rempli de gratitude Seigneur. Mais je ne veux pas regarder de droite à gauche, parce que là, à ce moment-là, ça va plus aller. Voilà que le maître de la maison va sortir dès le matin pour aller chercher à Pôle emploi, eh bien, du monde pour aller travailler. Et être appelé dès le matin, figurez-vous, ça a un sens. Parce que pouvoir servir Dieu, et je parle pour nous, eh bien, pouvoir servir Dieu est un bonheur. Finalement, au lieu de rester, selon les paroles, toute la journée à ne rien faire. Il y a des gens qui s'inquiètent. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, de leurs mains, de leur corps, de leur temps, parce que ils sont là à passer leurs jours sans ne rien faire. Alors, un grand nombre, et je pense pour la plupart, c'est vraiment une épreuve. Ouais. C'est une épreuve de voir ces gens qui vont quémander là, eh bien, un travail où l'on va exiger d'eux toutes sortes de choses. Et parce que derrière, c'est le pain quotidien, c'est la vie, et on va leur demander, eh bien, ceci, cela, etc. Mais vous n'êtes pas assez âgés. Quand on est trop âgé, mais il nous aurait fallu peut-être un personnel plus jeune. Et puis, ça n'en finit pas, vous vous rendez compte. Et là, on reste sur le trottoir à rester en attendant, en disant, mais alors ceux qui ont la foi, c'est différent. Mais ceux qui n'ont pas la foi, moi, je l'ai pas là. Hein. Terrible. Hein. Moralement, c'est difficile. Socialement, c'est difficile. Parce qu'on a le sentiment de ne servir plus à rien. Hein. Vous savez qu'on est vieux maintenant à 45 ans. Hein. Ça y est, on est déjà dans le troisième âge. Alors imaginez-vous pour moi. Hein. Eh oui, je suis passé à l'âge canonique. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est la société qui est comme ça. Mais Jésus traite le problème. Et on va le voir ensemble. Alors, pouvoir servir dès le matin, être pris par le Seigneur, d'une manière ou d'autre, et je parle sur le plan spirituel là pour l'instant, hein, mais même par ailleurs, que de passer sa journée à n'en rien faire. Parce que servir Dieu, ou servir Dieu d'une manière ou d'une autre, même dans la vie sociale, notre implication dans le monde professionnel, eh bien il y a toujours, figurez-vous, une rétribution, une récompense. Alors il y a un salaire dans le travail, qui fait partie des choses indifférentes de la vie. Il y a toujours un salaire, c'est normal. Mais en ce qui concerne les chrétiens, il y a une rétribution, il y a une récompense. Et ça, c'est une autre dimension, car le temps qui n'est pas impliqué, qui est le temps qui n'est pas employé pour Dieu, Jésus nous le dit qu'il est inutile et il est perdu. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, Jésus nous dit, mais rachetez le temps. Hein. Comment le racheter? Eh bien, Dieu peut nous en donner l'intelligence. Il peut nous en donner les moyens. Il peut nous en donner la capacité. Il peut faire de nous, finalement, eh bien là, quelque part, alors que nous doutons de nous-mêmes, que nous sommes profondément pris par notre misère et nos pensées, nos états de dépression, où nous sommes renfermés dans une prison de négativité, mais Dieu peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parce que ça fait partie du miracle de Dieu. Écoutez, hein, celui qui a tout fait dans le monde, il est capable, selon ce qu'il nous a appris à lui demander, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Et avec cette parole de pain quotidien, il est capable de nous donner toutes sortes de choses. Alors c'est vrai pour ceux qui ne travaillent pas, mais c'est vrai pour ceux qui travaillent et qui ont besoin de renouveler peut-être finalement leur travail, peut-être leur carnet de commandes. Mais prions, demandons au Seigneur, il sait très bien ce que nous avons besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, c'est pas facile de s'inquiéter de rien. Et le contexte environnant ne nous arrange pas, hein. Quand on voit toutes les dégringolades, quand on voit les chiffres négatifs, quand on voit tout cela, mais écoutez, nous avons au ciel notre Créateur. Et s'il est notre Créateur, il sera donné à sa créature, comme les oiseaux du ciel. Eh bien, le pain qui est nécessaire, enfin la nourriture qui est nécessaire, et puis si nous nous comparons à des lys des champs, eh bien, il nous donnera la beauté, finalement, tout ce dont nous avons besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Je vais prendre par-ci par-là quelques versets et on va aller un petit peu dans le vif du sujet. Voilà que il nous est dit à un moment donné, je reprends la version traditionnelle, les premiers vinrent ensuite, alors ça c'est après le travail, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un des deniers. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et toi le maître, tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Voilà. Les choses commencent ainsi au moment d'être payé. Tant qu'on travaille, ça va. C'est au moment où on passe à la paye qu'on s'aperçoit que finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on avait pensé. On n'aime pas ça, hein. Vous rendez compte? Vous rendez compte? On fixe un salaire et vous en avez que la moitié à la fin de la journée. Moi, je pense qu'on devrait être payé en début de mois pour le mois à venir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'est jamais fait, ça? Imaginez-vous. Là, on est arrivé le 1er avril, mais c'est peut-être parce que c'est le 1er avril. On aurait déjà notre salaire du mois d'avril. Oh, il y en aurait peut-être qui travailleraient bien, mais il y en a qui diraient, écoutez, moi j'attends le 1er mai parce que c'est la fête du travail. On s'en sort pas finalement avec les calendriers. C'est terrible une chose pareille. Hein. Alors, on va parler un petit peu de ces premiers. Et figurez-vous, il y a quelque chose qui les caractérise, ces premiers-là, c'est qu'ils sont mécontents. Ils étaient contents le matin, ils sont mécontents le soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de mildiou dans la vigne? Je ne sais pas, moi, toutes sortes de choses. Non, ils sont mécontents parce qu'ils mettent en comparaison les derniers qu'ils ont bien vus rentrer dans la vigne. Là où commence le soleil commence à s'abaisser. Et ils vont peu à peu se laisser gagner par la jalousie, par l'envie. Ils se disent, mais dites donc, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Ils ont travaillé une demi-heure, ils ont travaillé une heure et demie, hein, ou deux heures. Mais nous, on est là depuis le lever du soleil. Alors ça commence à... Le vin commence à... Comment, il commence à fermenter, voilà, hein, avant qu'il soit déjà pressé. Hein. Envie, jalousie. Comment pourrait-on appeler ça? La contestation, la récrimination, de l'insatisfaction, la manifestation. C'est des mots qui sont assez inconnus hein, dans notre société aujourd'hui, hein, tout ça. La mauvaise, des mauvaises dispositions qui sont exprimées maintenant à voix haute et qui chassent du cœur la joie du matin pour se transformer en révolte. Alors là, ça leur plaît pas du tout, car quand on met en doute la justice divine, puisque c'est un texte spirituel naturellement, quand on commence à douter de ce qu'est Dieu, de ce qu'il est capable, là je parle pour des chrétiens naturellement, c'est faire preuve de notre ignorance de qui est vraiment Dieu. C'est qu'on ne l'a pas connu. Alors que les gens qui sont inconvertis, bon voilà, 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 ils ont tout rejeté ou ils ne veulent pas en parler, c'est une chose. Mais quelquefois pour nous, et ça c'est vrai dans le monde social, dans le monde professionnel, mais ça peut être vrai dans bien d'autres choses, même dans quand on sert le Seigneur. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui servent le Seigneur et ils ne sont pas contents auprès de Dieu. Ah mais Seigneur, hein, moi je suis pas d'accord. Hein. Tu vois un peu mes qualifications, tu vois ce que je suis capable, etc. Tu m'as donné la plus petite place dans l'église. Alors tu sais, il va falloir que tu me montes en promotion. Hein. Avant la fin de l'année, tu me donnes un 15e mois de salaire parce que ça va pas aller. Hein. Oui, mais Jésus le présente un petit peu comme ça si on veut. Hein. Eh bien ça fait la preuve de notre ignorance de qui est Dieu vraiment et notre aveuglement moral et spirituel. C'est que nous n'avons rien compris. Et je vais vous le prouver. Oui. On va aller un peu plus loin. Le verset 13 et 15 nous dit cette parole. Le maître répondit à l'un d'eux. Ça devait être le meneur, hein, certainement, le délégué syndical. Mon ami, je ne te fais pas tort, dit le maître. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? C'est vrai ou pas? Vous êtes témoin. Non mais répondez-moi, parce que là je me sens complètement déconcerté. Est-ce que le matin de bonheur, au lever du jour, il a été question d'un denier? Vous ne ferez pas de procès hein, après. Hein. Bon, d'accord, un denier, c'est vrai. Prends ce qui te revient et va-t'en. Tout simplement, il va lui dire les choses comme ça. Tout simplement. Alors, on en est là. Tout simplement. Je poursuis. Prends ce qui te revient et va-t'en, je l'ai déjà lu. Je veux tenir à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil? Que je sois bon. Les choses sont posées. Si nous reprenons maintenant la première ligne de notre texte, je vais relire encore. Il va y avoir de la lecture. Hein. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer ses ouvriers pour sa vigne. Il convint avec l'un d'eux d'un denier par jour, c'est vrai, vous aviez raison. Et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent, ils sortirent de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, mais c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi dans ma ville, leur dit-il. Attention. Les premiers à partir, travailler, ont conclu un accord. Ils ont conclu un accord salarial avec le maître, un salaire défini, un denier, et ils l'ont obtenu, tout simplement. Quand on regarde les horaires, parce que ça rentre en ligne de compte, hein, quand on regarde les horaires et les dispositions du contrat, il y a diverses circonstances d'embauche. J'ai bien dit circonstances, parce que, en principe, moi je ne sais pas à quelle heure vous commencez le matin. Hein, en principe, je sais pas, moi, c'est 8h, 7h30, pour, enfin, peu importe, mais la majorité, c'est 8, 9h, hein, quelque chose comme ça. Voilà, en gros, admettons, dans les bureaux, enfin, bon. Normalement, quand il y a des horaires de définis, vous allez arriver à 11h en disant, bah, écoutez, hier soir, j'ai regardé la télévision, il y avait des choses très intéressantes. Je me suis pas réveillé ce matin, j'arrive qu'à 11h, pardonnez-moi. Maintenant, si vous voulez que je vous raconte de films, je peux toujours le raconter. Hein? Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que si vous faites ça une fois, bon, admettons, votre patron, il est malanime, il a l'esprit large, etc. Mais si vous faites ça 3 fois par semaine, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Ou alors, il va vous faire travailler la nuit. Hein. Donc ça, c'est les horaires et les dispositions du contrat. Circonstances d'embauche. Alors, en mettant un peu les choses à la manière d'aujourd'hui, 3e heure, il est 9h du matin. Il y avait déjà ceux qui étaient partis déjà vers 7h. Donc, 3e heure vers 9h du matin. La 6e heure, je vous explique ça, hein, c'est tout simplement midi. La 9e heure, c'est 15h de l'après-midi. Oui, il faut bien que je fasse ma sieste, hein, ça se comprend. Puis, 11h, la 11e heure, c'est 17h. Mais à 17h, en principe, il y a déjà beaucoup de gens qui sont sortis des entreprises, hein. Ça dépend à quelle heure ils ont commencé, mais c'est déjà la soirée. Et imaginez-vous que les choses sont présentées de cette manière, mais avec un dessin particulier. La nature de l'accord, maintenant. Les premiers ont négocié. On veut ceci, on veut cela, d'accord. Ils vont partir au travail sur la parole du maître. Il va leur dire, c'est un serment, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui un contrat, mais c'est sur la parole, et on ne plaisantait pas avec la parole, hein. À ce moment-là, hein. Les seconds reçoivent seulement une promesse. Tout simplement. Sans précision, le verset 4 nous le dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils se contentent simplement de ce qui sera raisonnable. Ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Ça veut dire, faites-moi confiance. Tout simplement. Les avant-derniers et les derniers simplement, c'est une proposition de ce genre. Vous aussi, allez à ma vigne, leur dit-il. Pas un mot sur le salaire. Eh oui. Parce que quand on décompose, ça s'appelle de l'exégèse, biblique, quand on décompose un peu les textes, on voit l'articulation, mais il y a une sagesse extraordinaire parce que vous allez voir à la fin, Jésus veut nous donner une drôle de leçon, hein. Ah, le monde, s'il avait écouté les paroles de Jésus, on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. Il n'y aurait pas eu la révolution, les révolutions dans le monde entier. Hein, la Bastille, elle serait peut-être encore à sa place. Hein. La révolution russe, elle n'aurait peut-être pas eu lieu. Et puis toutes les révolutions qui ont ensanglanté le monde avec des millions et voire des milliards de personnes. Eh oui, c'est pas un petit problème le pain quotidien. C'est pas un petit problème le travail. Et Jésus a abordé la question. Alors, les derniers, je vous l'ai dit, allez seulement à ma vie. Pas question d'argent, là. Allez travailler. Rien n'est mentionné. Et voilà que la fin de la journée approche. Alors les premiers, ils commencent à... Puis quand ils voient les autres arriver, ils disent « Ah, ils vont pas voir grand-chose, ceux-là. Hein. » Ils commencent à sourire, à avoir un petit sourire en coin. C'est quand ils vont passer la caisse qu'ils vont devenir verts. Enfin, verts ou toutes les couleurs, mais en tous les cas, pour l'instant, ils se disent « Bah, dis donc, nous, on a eu de la chance, ils devaient se féliciter. Mais qu'est-ce qu'on a eu de la chance que le maître nous ait trouvé, finalement, eh bien là, en premier, parce que on va l'avoir, notre... » Ils ne savent plus si c'est véritablement ça. Hein. C'est après qu'ils vont avoir un gros doute. Ouais. Et ils sont contents pour l'instant. Et la journée approche, la fin. Il y a une remarque qui est faite au verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, c'est-à-dire 5h l'après-midi, 17h, le maître en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Chez ceux-ci, chez les derniers, l'inactivité d'une journée passée, peut-être avec le souci de dire « mais qu'est-ce que l'on va ramener ce soir à la maison ?» Peut-être pourront dire « mais ils sont restés oisifs, il fallait qu'ils se réveillent plus tôt le matin, etc. » N'est ni de la paresse, et ça je voudrais vous le dire, sont des hommes chargés de famille probablement, des journaliers, mais qui s'inquiètent de ce que sera finalement le repas du soir. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais parce que personne ne les a alloués. Ils sont restés comme ça, dans cette situation. Il y a une chose qui va faire la différence, qu'on saura tout à l'heure, mais que je déjà vous lisais un petit peu le problème, c'est la compassion du maître. Ouais. Dieu, ou le maître de la vigne, sait que s'ils sont là, c'est qu'il n'a pas été loué, que personne n'est venu leur demander. mais le problème reste le même. Mais voici leur décompte. Aujourd'hui, on passe plus à la caisse. On reçoit un chèque, nous, on s'est viré. Je pense que comment c'est fait? Moi, vous savez, je vous parlais de mon salaire. Depuis 5 ans, moi, je le reçois du ciel. Enfin, il passe quand même par la caisse de retraite. Mais c'est vrai, on est bien quand on est retraité, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les retraités? C'est pas mal. Seigneur. Merci, Seigneur. Ça vient régulièrement, ça se passe bien dans l'ensemble. Ouais. Je sais que ça se passe pas toujours bien dans certaines caisses d'autres régions. Mais le Seigneur est bon, hein. Le Seigneur est bon, c'est vrai. Et on est dans un pays formidable, je voudrais vous le dire. Oui, parce que faut pas l'oublier. C'est autre chose dans certaines autres administrations, dans d'autres pays. Ça, certainement. Voici leur décompte. Leur décompte s'est décliné de cette manière. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, à son gérant, son comptable, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant. » Et là, c'est assez particulier, « des derniers aux premiers. » C'est intéressant. La paye tant attendue parce qu'on a travaillé et on la mérite. C'est un salaire. Tout simplement. Une juste rétribution logique. Parce que bon, on n'aurait pas la pensée de dire, eh bien, moi, j'ai travaillé. Il y a quelquefois des patrons indélicats qui font travailler les gens et qui ne les paient pas. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai entendu des histoires comme ça en disant, mais j'ai travaillé, on m'a exploité. On m'a fait travailler pendant une demi-journée, on m'a fait travailler pendant 8 jours, et puis quand je suis passé à la caisse en disant, ah, non, bon, ou alors on a baladé les salariés en disant, mais vous serez payé dans 8 jours, vous serez payé dans quelques jours et tout ça. Puis quelquefois, certains n'ont rien vu du tout arriver. C'est un scandale. Vous savez, il y a un texte dans Jacques. Malheur au maître qui ne donne pas le salaire à ceux qui ont travaillé pour lui. Et ça sera quelque chose de redoutable. C'est écrit dans Jacques, vous connaissez le texte. Malheur à ceux qui utilisent les autres sans leur donner, eh bien, ce qui est nécessaire. Juste rétribution logique. J'ai trouvé, par rapport à cette méditation, un psaume. Oui, un psaume qui nous dit un petit peu la même chose et qui nous montre comment Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. Le 145 au verset 14. Et je lis ça. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, de fatigue ou autre. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est miséricorde dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris. Et les sauve. Mes frères et sœurs, si je peux me permettre ce matin, et vous le faites, j'en suis certain, de prier, de demander au Seigneur tous les jours qu'il vous donne ce qui vous est nécessaire, qu'il vous donne un bon travail, qu'il bénisse votre travail, qu'il bénisse l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce que vous allez prier, et vous n'êtes pas tout seul, c'est pas pour vous que vous priez, mais vous priez pour tous ceux qui en bénéficient. Un chrétien est une source ou une ressource d'eau qui déborde et qui arrose tous les autres. C'est pas vrai, ça? C'est vrai. Moi, dans ma vie personnelle, je l'ai vu. Dans mes implications professionnelles, il y a longtemps, mais je l'ai vu. Et ça, je pense qu'il faut s'en souvenir. Priez les uns pour les autres. C'est prier aussi pour votre patron. C'est prier pour vos collègues. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir affinité ou pas, mais toujours est-il que c'est une bénédiction. Donne-nous notre pain quotidien, c'est une bénédiction. Et Dieu ne manquera pas de nous donner ce dont nous avons besoin. C'est l'apôtre. Non, c'est pas l'apôtre. C'était autre chose qu'un apôtre. C'est le roi David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Et c'est vrai, frères et sœurs. On a connu des frères et des sœurs dans différentes églises où nous sommes passés, où ils sont passés par des moments terribles de chômage, où il n'y avait plus rien à la maison, où il y avait des enfants à nourrir, et le témoignage qu'ils ont pu rendre par la suite, c'est de dire, eh bien, le Seigneur nous a jamais laissés démunis, et le Seigneur pourvoit nos besoins. N'ayez pas crainte, n'ayez pas de peur, le Seigneur vous laissera jamais tomber. Ceux qui invoquent son nom, le Seigneur est miséricordieux, nous l'avons entendu, ne craignez pas. Alors, nous allons parler Peut-être maintenant, puisqu'il est question de cette nature de Dieu, la véritable personnalité réelle de Dieu et sa souveraineté, sa grâce, qui sont absolues. L'originalité du paiement, là, avec le comptable, qui va être préposé à donner les payes, c'est que le maître aurait pu dire, bon, et peut-être que s'il n'avait pas dit dans ce sens, le comptable aurait fait peut-être dans le sens normal de la chose. On va d'abord payer les premiers, et on paiera les derniers. Mais là, c'est le contraire. C'est les derniers qui vont être payés et les premiers qui vont devoir attendre. Ça fait une longue journée, hein. Ça, c'est assez particulier. Et imaginez-vous un petit peu comment ça s'est passé. Les premiers s'attendaient à passer les premiers, c'est normal. Et la surprise. Et c'est ça ce qui est assez particulier, c'est qu'il va y avoir une inversion dans l'ordre de la logique sociale. Et on l'a compris. Et c'est une leçon pour nous. C'est que quand ils ont vu les derniers arriver, et stupeur, paf, une pièce d'argent, c'est un talent, non? Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai pas entendu. Un denier, voilà, excusez-moi, c'est quand je mets pas mes lunettes, j'entends pas. Alors, on y revient. Quand ils ont vu, tout simplement posé sur la table, un denier, imaginez-vous ce qui était derrière. Ils ont dû regarder et dire, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont peut-être voulu bousculer un petit peu en disant, mais c'est nous le denier. C'est nous la pièce d'argent, mais pas vous. Et ça a dû faire quelque chose. Et on sent déjà que le conflit gronde. Et bientôt, il va éclater. Verset 9 nous le dit, tout simplement. Ceux de la 11e heure vinrent après les premiers. Et là, ils commençaient déjà à tourner de visage. Hein. Et ils reçurent chacun un denier. Oh, alors là, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors là, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Hein. Là, il va falloir prendre des dispositions, parce que c'est pas normal. Quelle divine surprise pour les premiers, les derniers, pardon. Ah oui, parce qu'ils vont se dire, ben demain matin, on fait la grâce matinée. Attendez, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Mais demain matin, on arrive à 17h30. L'entreprise ferme à 19h. Oh. Ou peut-être, je ne sais pas, hein, on va travailler pendant une heure et demie, puis après, comme ça, on va avoir la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde s'y a compris, tout le monde va arriver tard dans la soirée. Hein. Ça, c'est peut-être... Eh oui, c'est une drôle d'histoire quand même, hein, qui est peut-être racontée, et Jésus le fait exprès, quelque part, pour nous provoquer. Et là, il va y avoir donc cette surprise, et pour les uns, le patron est merveilleux, moi je ne sais pas si vous le dites de votre patron, il est généreux, il est formidable, demain matin je reviens travailler dans son entreprise, aucun problème, et tous les jours comme ça. Et voilà qu'on reprend un petit peu dans un autre sens, donc je vous l'ai lu il y a un instant. Les autres sont venus, les premiers sont venus croyant recevoir davantage, mais ils n'ont pas reçu plus. Et en murmurant, nous est-il dit, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, mais ces derniers ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de tous qui avons supporté la chaleur et la fatigue, etc., etc. Tout simplement. C'est une accusation d'injustice. Hein. Tout simplement. Et ça vaut le prud'homme. Hein. Ah bah oui. Si vous êtes déjà passé par là, vous verrez comment ça se passe. Prud'homme version antique. Hein. La raison de tout ça, ça a été le malheur de comparer pour jalouser. Il aurait pu se réjouir en disant, mais écoutez, on est content pour vous, hein, parce que vous êtes arrivés les derniers et vous avez autant que nous. Bon, tant pis pour nous, demain peut-être on fera le contraire. C'est la comparaison. Et quand on regarde autour de soi, il y aura des gens qui seront plus modestes que nous, plus démunis que nous, et puis il y en a qui sont plus riches que nous. Je ne sais pas comment vous considérez, mais si on regarde et on se perd à regarder de droite et de gauche, on risque d'être vraiment des gens malheureux. Hein. Pas vrai? Moi, quand je vois qu'il y a des gens qui ont des belles maisons, ils ont des yachts, certains ont des avions. Là, on a un voisin qui a acheté 2 bateaux. Il les attend. Bon, je convoite pas. Hein. Je pourrais dire, Peut-être qu'on pourrait faire un petit tour avec mon épouse quand celui qui est en construction, là, le plus grand bateau du monde. Ah oui, mais bon, voilà, bon, j'y vais pas, et puis c'est tout, hein. Peut-être que ça m'évitera un naufrage. On sera pas tout seul, hein. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent arriver. Je peux voir peut-être des gens qui sont plus malheureux et de dire, ben oui, mais voilà, hein. Quand je vais faire mes courses, là, dans un supermarché, il y a des gens qui achètent au minimum, hein. On achète, nous, ce que nous avons besoin. Alors, c'est les comparaisons. Alors, les comparaisons, on va pas retenir ceux qui sont en dessous, parce qu'on oublie de dire merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Mais quand on regarde ceux qui, par exemple, ont une belle voiture, une belle maison, et puis ceci et cela, qui ont pas l'air de trop se casser la tête dans la vie, je me dis, mais oui, c'est vrai, je pourrais peut-être vivre autrement. Bon, c'est un choix de vie, hein, que j'ai fait, hein, de toute façon, et je suis content comme je suis. Mais voilà ce qui se passe. La comparaison qui porte à la jalousie. C'est un mal chronique de l'humanité, la jalousie. Parce que si je me perds à regarder de droite et de gauche, je vais certainement faire des différences, ça c'est sûr. Croyant recevoir davantage, c'est le problème des premiers. Et ils murmurèrent, ils ont commencé à parler mal, la mauvaise langue, et tout y passe en matière de revendication. Moi, j'aurais pas voulu être là parce que je peux vous dire que le pauvre patron, il a dû en entendre. Et le pauvre comptable, il était pour rien. Eh oui, parce que il a reçu un ordre, lui, hein. Tu vas commencer par les derniers. Eh ben, vous savez, tout ça, Jésus nous le montre, c'est un état d'esprit. Et c'est bien l'objet du délit, en quelque sorte. Parce que Jésus va dire, vois-tu d'un mauvais œil? Ah, le mauvais œil, c'est toute une histoire, hein. Dans la première traduction, je vous ai lu, mais vois-tu finalement, pourquoi tu me regardes de travers? Est-ce que vous avez remarqué que quand on n'est pas content avec quelqu'un, on le regarde toujours de travers? Non? Mais quand je suis pas content, moi je regarde les gens en face quand même, hein. Puis après il va me dire, t'as un mauvais œil. Derrière des lunettes de soleil, ça se voit pas beaucoup. Mais bon, toujours est-il que ça c'est l'objet du délit. Et le maître va lui dire, mais pourquoi tu regardes comme ça? Et avec cette précision, serais-tu jaloux, envieux, parce que je suis généreux? C'est ça la question. Parce que je vais faire du bien. Car le maître sait par compassion, celui de notre texte, qu'il faut autant d'argent au dernier qu'au premier pour acheter du pain et nourrir la famille des uns des autres. C'est ça la bonté. Il y a un très 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 beau passage dans la Bible qui nous dit ceci, c'est que ce qui fait le charme d'un homme, écoutez bien mesdames, ce qui fait le charme d'un homme, vous savez ce que c'est? C'est les hommes qui répondent, parce qu'ils connaissent. Ce qui fait le charme d'un homme, troisième fois je me prêterai, c'est sa bonté. Voilà. Et ce qui nous est bien placé dans notre texte, là, Jésus est en train de le relever, quelque part, comme cela est dit, mais est-ce qu'on pourrait être jaloux de quelqu'un qui est bon et qui fait du bien? Eh bien, fais de même. Ben oui, alors à ce moment-là, tu fais de même. Mais si tu es là pour critiquer et que tu ne fais pas de même, alors à ce moment-là, c'est une forme d'hypocrisie, parce que tu parles pour rien. Et derrière, tu es en train de démontrer que tu es jaloux et que tu es envieux, pas autre chose. Et le maître sait que ces gens qui sont arrivés en dernier lieu, ils ont une famille à nourrir, et que même s'ils ne sont pas venus plus tôt, c'est qu'ils ne pouvaient pas venir plus tôt. Mais ils savaient ce que vous coûtait le panier de la ménagère. Donc il a donné l'ordre. Dans sa bonté de dire, eh bien maintenant, toute la journée, pour tout le monde, quels que soient les horaires de travail, tu vas leur donner tous un denier. Et ce sera bien comme ça. Donc, être bon serait donc un crime? Une infraction? Un sujet de condamnation? Ah là 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 là, c'est terrible tout ça. Prends ce qui te revient au contestateur, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil? Que je sois bon. Avant de terminer, parlons rétribution sociale, version spirituelle. Pour Dieu, ce n'est pas tant la quantité de travail, ou les heures de travail, disons-le, puisque c'est le sujet, que nous fournissons, qui compte devant Dieu, mais notre fidélité à ce que nous faisons. Et ce que nous le faisons bien. C'est important. Ensuite, l'heure à laquelle le Seigneur nous appelle est différente pour chacun. On l'a vu, hein, dans le texte. Pour bien comprendre ceci, Fidélité et consécration et non l'effort et le temps passé. On a vu malheureusement dans l'histoire des églises qu'il y avait des gens qui étaient très 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 consacrés, qui étaient là même avant l'heure, avant tout le monde, mais dont le mobile de leur consécration n'était pas le sujet, n'était pas le Seigneur, mais eux-mêmes, pour se glorifier ou se donner une aura vis-à-vis des autres. Et ça, c'est pas bien, parce que ça ne trompe pas le Seigneur, c'est qu'on se trompe soi-même. Parce que si on veut faire de notre christianisme ou de notre foi une promotion pour nous-mêmes, nous nous trompons. Non, ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit, n'est-ce pas? C'est écrit, hein, c'est Paul qui nous le dit. Et non pas de dire, eh bien voilà, j'occupe toutes les places, etc., etc., je suis toujours là, je deviens indispensable quelque part. Eh bien, si on le fait dans un état d'esprit, dans un mobile qui n'est pas pour Dieu, on le fait pour nous-mêmes, pour nourrir notre égoïsme. C'est ce que Paul dira à un moment donné dans Romains, il dira, mais ils ne servent que leur propre ventre. Ça peut tomber sous le sens avec ce que nous disons ce matin. C'est pas une question de productivité. Ce n'est pas une question d'activisme dans l'Église. Mais c'est autre chose. C'est une disposition de cœur. Tout simplement. Moi, quelquefois, ça me pose question de voir qu'il y a des églises évangéliques, semblables à la nôtre, où il n'y a plus que ça qui compte, de l'activisme. Alors, vous avez déjà vos activités à l'extérieur, et là, c'est du 24-24, ou une permanence, par exemple, hein, pour servir dans l'église. Bah, écoutez, vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie sociale, vous avez une vie conjugale, eh bien, il faut faire une part pour tout ça. Et non pas dire, ben voilà, tout pour le Seigneur, et puis, si c'est dans l'état d'esprit que nous avons dit, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Le Seigneur en premier, c'est vrai. Mais en tous les cas, si c'est de l'activisme pour de l'activisme, c'est pas ça non plus. La mentalité du service dans le royaume de Dieu, c'est qu'il y a des gens qui vont servir le Seigneur et qui vont le servir pour le bénir et pour avancer le royaume de Dieu. Mais il y a les objecteurs à la grâce. Objecteurs à la grâce, on les appellera comme ça, qui prétendent que tant de travail accompli, qui sera fait, pour tant de soleur à recevoir. Ben, on travaille pas comme ça. Hein. Ce qui doit présider finalement le travail dans l'Église, c'est la générosité. C'est tout simplement, eh bien, de dire, oui, comme nous le chantons, prends tout Seigneur. Parce que quand on donne tout au Seigneur, lui saura nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si nous nous occupons de nos affaires, lui, il s'occupera des nôtres. Mais sans compter. Faut pas que ça soit quelque chose de mercantile, hein, naturellement. Hein. Et c'est vrai que ces objecteurs à la grâce, ils se disent, moi je fais ça, mais j'attends de l'autre côté, naturellement. Alors ils vont recevoir une paye de mercenaire, parce que le maître va quand même, le comptable va lui dire, on te paie, tu vois, tu vas l'avoir ta pièce d'argent, tu vas l'avoir ton denier, tu vas le recevoir. Mais il y a quelque chose qui vient s'ajouter en plus. Donc il va recevoir une paye de mercenaire, et le maître lui dira tout simplement de s'en aller. Vous l'avez vu avec moi, verset 14. Et au chapitre « Prends ce qui te revient », donc il a son salaire, et il lui dit « Maintenant, va-t'en. C'est fini pour toi. » C'est un scandale, ça aussi, parce qu'il a travaillé quand même. Travaillé depuis le matin de bonne heure, mais c'est son état d'esprit qui n'est pas bon. Et c'est ce que Jésus veut souligner. La conclusion, eh bien, nous allons la faire d'une manière très simple. Mettre en parallèle avec un autre personnage qui apparaît dans la Bible, dans un conflit familial, dans un conflit de père à fils, c'est l'histoire du fils prodigue. Notre fils prodigue revient, il a fait les 400 coups, il a dépensé tout son argent. Pendant ce temps-là, c'était la Dolce Vita, je ne sais pas sur dans quelle région, mais toujours est-il que il s'est mis complètement, eh bien là, dans la disette et la misère. Et à un moment donné, il lui vient l'idée de demander pardon à son père et de revenir à la maison et de ne plus être considéré comme le fils, mais d'être considéré comme le moindre de ses serviteurs, de ses mercenaires. Reprends-moi à la maison parce qu'au moins j'aurai du pain à manger. Et le père va lui dire, allez, t'es encore mon fils, tu es pardonné, nous t'aimons et nous allons faire la fête. Mais il y a le deuxième. Et ces deux histoires se suivent. Parce que le fils aîné, il est exactement dans la mentalité de ses premiers qui vont récriminer parce qu'ils ne sont pas contents d'avoir reçu qu'un denier alors que le contrat était ainsi. Le fils aîné, permettez-moi de le dire, il n'a jamais manqué de rien. Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose, les premiers? Ils ont dû avoir la nourriture, si ça a été fourni par le patron, ils ont dû avoir la boisson, etc., etc. C'est moi qui l'imagine, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Il a toujours bénéficié de la présence paternelle. Eh oui, le patron le maître qui a donné sa promesse, mais c'était un patron qui allait tenir sa promesse. Donc, on pouvait avoir confiance. Il a toujours, ce fils aîné, bénéficié des bienfaits de la famille. Son père lui dira, mais devant un reproche, « Mais tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis et faire la fête ?» Le père lui dit, « Mais mon fils, tu es mon fils. Tout ce qui est à toi, à moi, mais c'est à toi. Il fallait en profiter, mais tu n'as pas voulu en profiter à cause de ton mauvais état d'esprit. Maintenant, tu en es privé. » Mais il y a une chose qui va l'insupporter, ce fils aîné, avec le caractère, le tempérament qu'il a, c'est la bonté de son père. Ah oui, il n'encaisse pas, il ne comprend pas que son père soit bon. Et ça, ça l'insupporte, ça l'énerve. Parce que l'attitude de son père, qui est une attitude bienveillante à l'égard de son frère, qu'il appellera ton fils. Si vous connaissez les textes, cette attitude bienveillante de ce frère qu'il méprise, ça l'irrite. Et il y avait bien d'autres choses dans cette affaire qui a fait que, au lieu de rentrer à la fête, eh bien, il s'en est allé exactement comme dans notre texte. Tu veux pas en profiter, ben tu n'en profites pas. Voilà, tout ce que j'ai est à toi. Une telle attitude est indigne d'un ouvrier serviteur, à quelque niveau que ce soit, et détruit l'œuvre accomplie. Comme Jésus le dira, comme Paul le dira, pardon, que celui qui bâtit avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, ou alors, parce que sa conscience est différente, avec de la paille, du foin et du chaume, eh bien, sera révélé à un moment ou à un autre. Et je dis bien que tout cela détruit l'œuvre accomplie, si belle soit-elle, si le cœur est animé de rivalité, de contestation, de concurrence, et si le cœur de celui qui sert est absent de bonté. Parce que tout est là, en quelque sorte. Dans Corinthiens, il nous est dit, mais tout sera éprouvé par le feu, d'une manière ou d'une autre. Alors, retenez bien cette dernière parole, je termine. La grâce est supérieure à la loi. Il y avait dans cette histoire que Jésus nous a racontée une base de loi. Tu travailles pour moi, je te donne un denier et nous avons conclu le marché. Tu auras ton denier après avoir travaillé, c'est tout à fait logique. Mais vous avez remarqué combien ce feu d'artifice de grâce nous est présenté à travers cette parabole de Jésus. C'est que la grâce est supérieure à la loi. Et Jésus tirera cette conclusion, ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors, quelle place, quelle position désirons-nous? Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que le Seigneur nous donne sa grâce, parce que moi j'ai trouvé que cette petite parabole qui est unique dans l'évangile de Matthieu, c'est une perle. Ouais. Alors on n'est pas syndicaliste, on n'est pas ceci ou cela, mais je crois que Jésus nous a donné quelque chose à notre réflexion pour nous montrer où nous devons nous situer. Et là, soyons reconnaissants, soyons remplis de gratitude parce que nous sommes véritablement des hommes et des femmes privilégiés et nous vivons de la grâce et de la faveur de Dieu. Personne ne nous l'ôtera. C'est aussi au fond de notre cœur. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants si vous voulez. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier pour cette belle parabole. Il y a des histoires extraordinaires dans l'Évangile, dans toute la Bible d'ailleurs. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as livré encore à notre réflexion, pour nourrir au fond de notre cœur la bonne attitude que nous devons avoir. Oui, nous sommes que des hommes et nous sommes baignés dans un monde où tout est fait pour entretenir, Seigneur, l'irritation, la contestation, la comparaison, de devoir, en effet, Seigneur, considérer que, eh bien là, il y a tant d'inégalités, il y a tant d'injustices. Mais nous devons nous mesurer avec les normes de l'Évangile, avec les règles de grâce de l'Évangile, avec, Seigneur, déjà ce que nous avons reçu, et nous considérer, Seigneur, comme des privilégiés. Oh, c'est vrai que, par rapport à l'histoire du christianisme depuis 2000 ans, nous pouvons véritablement être sûrs que nous sommes certainement dans les derniers, et que nous allons recevoir, eh bien, le même talent, la même bénédiction que ceux qui ont été les premiers. Moi, je pense aux apôtres, je pense à Paul, tous ceux qui ont fait un travail extraordinaire dans la chaleur et la fatigue. Et aujourd'hui, dans les temps qui ont changé, Seigneur, dans notre 21e siècle, nous sommes vraiment les derniers et nous allons recevoir, eh bien, véritablement la même récompense. Alors, nous voulons pas, en raison de cela, eh bien, Seigneur, considérer, Seigneur, que, eh bien, Seigneur, nous pouvons en faire moins. Non, au contraire, nous devons eh bien, nous encourager les uns et les autres à te servir et à te servir d'un grand cœur, de tout faire pour la gloire de Dieu. Et ainsi, Seigneur, de ne pas nous laisser prendre avec la jalousie qui nous détruit, à travers les comparaisons, Seigneur, tellement négatives, qui suscitent des revendications, des murmures, hein, qui suscitent, Seigneur, tant de choses qui ne développent pas véritablement le caractère de Christ en nous, entre autres, l'amour, hein, et la bonté. Merci, Seigneur, pour ce maître bon, parce qu'il a voulu faire de son bien, eh bien, Seigneur, une bénédiction pour les autres. Alors nous, Seigneur, ce que nous avons, nous voulons que ce soit une bénédiction pour les autres. Et nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.